Bonsoir Daniel et bonsoir aux auditeurs de France Inter. C'est Sonia de Marseille. Je viens d'entendre un SS et je me demande pourquoi je peux l'entendre alors que je n'entendrai jamais ma grand-mère Rachel, mes tantes Sonia et Esther, mon oncle Georges. Daniel, permets-moi de souligner que si aujourd'hui l'Europe commémore Auschwitz, ce n'est pas pour faire plaisir aux Juifs, c'est pour souligner l'atrocité de l'extermination, 6 millions de personnes innocentes. Juifs, catholiques, protestants, musulmans, athées, nous sommes tous concernés et nous devons rester vigilants. Alors, attention aux manins qui sommeillent en nous.
Oui, Daniel Mermet, ben je suis en train d'écouter ton émission, voilà. Donc, il y a quelqu'un qui s'étonne que Munch ait fini ses jours tranquillement. Bon, lui, il est décédé, il n'y a plus de problème. Le compte, c'est réglé, mais le Papon, il est toujours vivant, tu vois. Et tu t'étonnais du fait que personne n'ait bougé pour Munch et tout ça, et puis il n'est pas, pas condamné et qu'il ait fini ses jours tranquillement. Et Papon.
Bonjour, Daniel. Oui, je viens d'écouter ton émission. Là, écoute, ça m'a beaucoup touché. J'espère que ce genre d'émission donnera aux gens l'envie de nouveau d'embrasser la carrière de chasseur de nazis. Je voudrais lire un petit passage d'un livre de Rolf Hilberg qui s'appelle « La destruction des Juifs d'Europe ». C'est assez étonnant, enfin, c'est un livre merveilleux. Voilà, il y a 2000 ans, on a dit aux Juifs « Vous pouvez vivre, mais il faut abandonner votre Dieu ». Plus tard, au Moyen-Âge, on leur a dit « Vous pouvez vivre ». Mais dans des quartiers à vous, dans des ghettos. Au XXe siècle, les nazis sont arrivés et ont dit aux juifs, vous ne pouvez plus vivre. Les nazis ont concrétisé ce que 2000 ans d'antisémitisme a préparé. Si la Shoah n'appartient qu'aux juifs, le génocide des juifs appartient à tous. Voilà, c'était un petit texte. Il faut lire ce genre de livre, Lévi, Anthelme et tout ça. Je vous embrasse.
Voilà, ben tout est dit dans cette dernière phrase citée de Raoul Hilberg. Effectivement, ce livre, l'auditeur dit merveilleux. Le mot est peut-être un peu abusif, étant donné le sujet dont il est question, c'est-à-dire la destruction des Juifs d'Europe. Mais c'est vrai que le livre de Raoul Hilberg, H-I-L-B-E-R-G, est le livre. Sans doute à lire, il y a sans doute aucun sujet au monde qui n'a suscité autant d'écritures, autant d'écrits que le génocide des Juifs et la destruction d'hommes, de femmes et d'enfants durant cette deuxième guerre mondiale. Mais celui-là était effectivement un livre de référence. Il a rapidement cité Primo Levi et Robert Anthelme aussi, qu'il faut lire et relire. Et qui Robert Anthelme qui disait « Ne retranchez personne de l'humanité ». C'est effectivement la leçon universelle qui nous intéresse à Auschwitz, tout en respectant la particularité de chaque groupe qui a été opprimé, persécuté et détruit. C'est très difficile d'arriver à faire cohabiter effectivement ces deux vérités, celle, la vérité universelle et la vérité de la différence et non pas de la hiérarchie entre les victimes. Et c'est très difficile effectivement de respecter la différence sans se laisser aller à hiérarchiser ces victimes. C'est un grand défi et c'est un des triomphes posthumes de ceux qui ont imaginé et mis en œuvre cette solution finale. C'est un de leur gloire posthume et c'est à nous de leur disputer ce triomphe posthume. Aujourd'hui, on va nous aussi à nouveau parler de cette époque, mais à travers un témoignage que nous avait donné un homme en 1993, il y a 12 ans, Pierre Selle, déporté homosexuel. À l'époque, en 1993, il fut une des premières voix à oser parler et attirer l'attention sur la déportation et la destruction aussi des homosexuels dans les camps de mise à mort nazis. Donc on va retrouver ce témoignage aujourd'hui, celui de Pierre Selle. Et auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la basse, j'y suis. Et puis, on va avoir, après ces messages-là, quelques nouvelles de certains héros qui sont en pleine mer, en train de lutter pour nous. Je rappelle le numéro du répondeur, 01-56-40-37-37.
Roberto de l'Ardèche. Allez, ce matin-là, c'est encore une petite goutte de plus qui nous est versée dans nos oreilles par l'intermédiaire du journal de Inter. Eh bien, voilà, on a des nouvelles de Davos ce matin. Davos, grand rendez-vous de tous les démocrates, de tous les gens qui aiment la liberté. Et puis, ben, on apprend ce matin que à Davos, il y a une rencontre vraiment inattendue. Les idées entre Porto Alegre et puis le néolibéralisme le plus dur se rejoignent. Davos se penche au chevet des pays pauvres et déclare comme étant d'utilité publique qu'il faut absolument éradiquer la pauvreté. Enfin, ça, c'est Jacques Chirac et son collègue Tony Blair qui l'ont déclaré officiellement. Mais les autres sont tout à fait prêts à suivre le mouvement, à déclarer donc sus et guerre à la pauvreté. Je ne sais pas si c'est une opération de communication pour vous prendre pour des cons. Est-ce que France Inter se fait le relais allègrement de ce genre de désinformation, à mon avis? Mais là, c'est un grand sourire, un grand éclat de rire ce matin quand j'entends ça. Ça m'a finalement mis en forme pour la journée, ça m'a donné du peps. Alors, eh ben, salut à tous. Et il faut nous en dire plus hein, sur Davos, hein, vraiment. Là, on va s'y intéresser, on va s'y pencher. On va même lire les magazines économiques, pourquoi pas. Salut, bonne journée à tous.
Salut Daniel. Nestlé, Moulinex, Rodia, aujourd'hui c'est Total et son président, Monsieur Desmarais, qui élague une nouvelle fois la branche de l'industrie en créant le nouveau groupe Arkema. Desmarais dégaze la chlorochimie sur la mer des profits. Une des conséquences immédiates de ce choix est la suppression de 2000 emplois sur le département des Alpes de Haute-Provence. Pendant ce temps-là, M. Total Desmarais n'a pas oublié, lui, de préparer ses petits intérêts. Avec quelques manipulations financières, il injecte 15 milliards d'euros dans le rachat de ses propres actions. Cette petite opération ne lui aura rapporté que la maudite plus-value de 2,5 millions d'euros sur ses stock options. Par ses choix purement financiers, il préfère démolir un savoir-faire industriel, briser des familles, mettre en péril une économie départementale dépendant presque exclusivement de cette usine. Ces grands rois, ces intouchables financiers de nos grands partis méprisent les citoyens et travailleurs que nous sommes ainsi que les élus locaux qui nous suivent. Ce petit message, Daniel, pour t'informer que les salariés d'Arkema, de Château Arnoux-Saint-Thomas, se mobilisent le 27 janvier devant la raffinerie Total de la Med à Marseille. Nous ne serons pas résignés devant l'inhumanité totale. Ciao Daniel, c'était Jean-Claude, Cédric et Isabelle.
Angers est une petite commune de 300 habitants à 30 km au sud de Poitiers dans la Vienne. Un industriel d'origine hollandaise a acheté une petite porcherie de 800 porcs et a obtenu l'autorisation de s'agrandir à 2500 porcs sur Caille-Botty et épandage du lisier sur champs drainés. Lors de l'enquête d'utilité publique, 70% des habitants étaient contre, ainsi que 8 conseillers sur 11. La commune a pris un avocat et a apporté l'affaire au tribunal administratif, qui a interdit l'extension de la production porcine. Mais le préfet a donné une dérogation et écoutez bien ce qui suit. Le ministère de l'Environnement a fait appel à la décision du tribunal administratif. En clair, le ministère de l'Environnement est pour les porcheries industrielles sur lisier, ce qui pollue le plus. Je vous laisse l'adresse de l'association, car on a l'impression qu'on se bat contre des géants. bienvivre.ancher@laposte.net. PS, est-ce que vous pouvez me dire si mon message passe à l'antenne, car j'ai très peu l'occasion d'écouter l'émission de Daniel Mermet, avec beaucoup de regrets d'ailleurs. Bonne journée à tous. Au revoir.
Allô, José, où es-tu? Que fais-tu en pleine mer?
Pour ceux qui ont raté les épisodes précédents, il y a quelques jours, on est parti de Grande-Bretagne, de Cornouailles,
plein sud pour intercepter un bateau d'OGM qui est en provenance d'Argentine et qui ramène des tourteaux de soja génétiquement modifiés en provenance d'Argentine pour le ramener dans un port français à Lorient. Donc ce bateau s'appelle Golden Lion, il porte 32 000 tonnes de tourteaux de soja transgénique et donc au sud du Portugal, à peu près au niveau de Gibraltar, on a intercepté ce bateau. On a essayé, on aurait voulu pouvoir grimper dessus, mais la mer était tellement mauvaise que les raisons de sécurité ont fait renoncer à ce projet. Et donc maintenant, depuis mardi matin, on suit ce bateau jusqu'au port de Lorient pour être sûr qu'il ne s'échappe pas et qu'il ne parte pas dans une autre direction. Donc maintenant, on sait qu'il va rentrer théoriquement ce soir dans le port de Lorient. Nous, vous voulons rentrer bien évidemment aussi, c'est pour ça que nous l'avons doublé pour être avant lui à Lorient. Mais les autorités françaises ont déjà fait en sorte de nous envoyer sur une voie de garage et le port de Lorient, semble-t-il, est déjà bien rempli de gendarmes et de policiers en tout genre, mais ça va absolument pas évidemment empêcher la mobilisation et d'ores et déjà tout le monde est appelé à venir manifester, donc tous les Françaises et les Français qui peuvent se rendre disponibles demain matin à 9h à Lorient, sont les bienvenus à l'entrée du port de Lorient. Et comme cela, on sera très nombreux pour venir accueillir ce bateau.
Comme il le mérite.
En fait, personne ne veut.
C'est ça qui est important, c'est que personne ne veut. Il faut rappeler que l'opinion française est largement opposée aux OGM, à l'introduction d'OGM.
Bah écoute, il y a 70% des Français qui, de manière constante, depuis 5 ou 6 ans, disent qu'ils refusent des OGM dans l'agriculture et dans l'alimentation. Et malgré cela, les pouvoirs publics laissent faire les multinationales, laissent rentrer ce soja transgénique pour nourrir les animaux. Et on est dans une situation absurde où ni l'État français ni l'Europe ne prennent en compte les citoyens. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que l'Orient est en Bretagne et que la Bretagne est l'une des premières régions à s'être déclarée sans OGM et à vouloir en plus organiser un partenariat avec le Brésil pour être livrée en soja garanti sans OGM. Eh bien, les pouvoirs publics n'aident absolument pas la région Bretagne et on peut dire aussi que cette manifestation est une manifestation en soutien à la volonté de la Bretagne de produire sans OGM.
Alors, rendez-vous demain matin à 9h sur le port de Lorient.
On appelle tout le monde à venir avec ses t-shirts, ses banderoles, avec son pique-nique, la musique, parce que pour nous, manifester, c'est aussi faire la fête. Donc on espère que les gens seront là nombreux, déterminés et joyeux.
Alors voilà, ça va être gai demain matin à Lorient, n'en doutons pas. Mais enfin, c'est dont on peut douter, on se dit, mais est-ce que, oui, mais enfin, en quoi ça me concerne, cette histoire d'OGM dans ma vie quotidienne, comment ça se passe, comment m'y retrouver, comment éviter de consommer des produits contenant des OGM. Et ben voilà une explication très commode, très pratique et très pragmatique, comme on dit, par Arnaud Apothécaire. Arnaud Apothécaire, il est sur le bateau avec José Bové. Arnaud Apothécaire, il est de Greenpeace et il nous donne les clés de la lutte quotidienne contre les OGM.
Oui, je suis Arnaud Apothécaire, c'est moi qui m'occupe des OGM pour Greenpeace en France.
Explique-nous ce qu'on peut faire quotidiennement par rapport aux OGM. Quels sont les risques ?
Bah, dans la vie courante, je dirais pour la plupart des citoyens qui sont aussi des consommateurs, le risque c'est de trouver des OGM dans les produits alimentaires. En France, on a la chance relative qu'il n'y ait pas encore de culture commerciale. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est éviter les OGM dans les produits alimentaires, parce que si on les évite dans les produits alimentaires, on les évite dans les champs, puisqu'on les cultive pour les mettre dans l'alimentation. Alors qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ? Il y a les produits alimentaires où, lorsqu'il y a des OGM dedans, c'est étiqueté. Alors, à Greenpeace, on a créé un réseau de détectives. Et en fait, les détectives, ils sont chargés de traquer, hein, de débusquer les OGM dans les étiquettes. Alors, tout le monde nous dit, c'est pas la peine d'aller les chercher s'ils sont marqués dans les étiquettes. Mais on sait très bien que quand on va faire ses courses, on regarde pas l'étiquette de chaque produit que l'on consomme. Alors, les détectives, en fait, c'est leur boulot. ils vont dans les supermarchés, dans les magasins, ils scrutent toutes les étiquettes, et lorsqu'ils trouvent des produits sur lesquels il y a marqué « issu d'OGM » ou « contient des OGM », eh bien, ils nous envoient le nom du produit. Nous, on met sa photo, on met l'étiquette sur notre site, et on demande aux consommateurs, aux citoyens, d'écrire aux fabricants, d'écrire aux supermarchés, pour que ces produits soient retirés des rayons. On a aussi une liste imprimée.
Quel est le pourcentage de produits ? Moi, je rentre dans mon supermarché.
Ben ça, c'est la question majeure. Le pourcentage des produits qui sont étiquetés OGM, il est ridicule, il est infime. Et c'est ça parce que les industriels ont eu peur de mettre des produits étiquetés OGM. Ils ont eu peur à la fois parce qu'ils savent que les consommateurs n'en veulent pas et ils savent qu'on a 2000 détectives qui vont aller le repérer et l'indiquer.
Donc ils le planquent, il y a des...
Il y en a très peu, il y en a 20 produits sur environ 80 000 produits alimentaires qui sont vendus en France. Aujourd'hui.
Il y en a 20 quoi ? Il y en a 20 qui sont étiquetés OGM.
Voilà, une vingtaine de produits.
Sur 80 000 produits.
Voilà.
Donc ça veut dire qu'il y a 79 000.
Voilà, 79 980 à peu près, parce que tous les jours il y a des nouveaux produits.
Qui sont sans OGM ou avec OGM planqué ?
Ben voilà, c'est la question en plein dedans. C'est-à-dire qu'ils sont sans OGM introduits directement dans le produit, mais ils sont susceptibles d'être pleins d'OGM planqués, tout simplement parce que la plupart des OGM aujourd'hui, on les cultive pour les donner aux animaux. Et les animaux ou le lait, les œufs, le beurre, la viande, eux ne sont pas soumis à l'étiquetage.
Et ces produits... Vos détectives peuvent détecter ça ?
Ah, les détectives, aujourd'hui, ne peuvent pas encore le faire. C'est un autre travail, plus complexe, que nous faisons, y compris en interrogeant les fabricants, en interrogeant les producteurs alimentaires. Et c'est là la raison d'être, en quelque sorte, de notre guide. Notre guide, c'est pas les produits qui sont étiquetés, c'est les produits qui sont susceptibles de contenir des OGM ou pas, indépendamment de l'étiquetage. C'est-à-dire, c'est ces 79 000 produits où on demande aux fabricants est-ce qu'il y a des OGM qui ont été introduits dans ces produits par l'intermédiaire de l'alimentation des animaux.
Vous avez du boulot.
Il y a un boulot énorme et on va sortir une prochaine liste là pour cet hiver, justement pour que les gens puissent avoir un Noël sans OGM. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est les produits bio ne contiennent pas d'OGM ni dans l'alimentation des animaux ni dans les produits dérivés. Tout l'ensemble des produits bio est exempt d'OGM. Et pour le reste, c'est encore une minorité de fabricants qui peuvent garantir qu'il n'y a pas d'OGM dans l'alimentation des animaux. La plupart des produits qui vont contenir du lait, des œufs, de la crème, du beurre, contiennent en fait des OGM sans le dire. Je dirais que c'est la plupart des produits.
Quelle est la solution ?
Alors, si on parle à un niveau individuel du consommateur qui ne veut pas être atteint par les OGM, et je dis bien aujourd'hui...
Moi et ma petite famille, je ne veux pas empoisonner ma petite famille.
Je veux dire, c'est valable pour aujourd'hui, parce que quand on cultivera des OGM à grande échelle en France, il sera impossible de les éviter complètement. Aujourd'hui, si on veut les éviter, sans vouloir faire de la pub, c'est consulter le guide avec et sans OGM de Greenpeace, puisque c'est la seule enquête un peu exhaustive où on a interrogé l'ensemble des fabricants alimentaires. Et s'ils ne nous ont pas garanti l'absence d'OGM, ils sont sur une liste rouge. Si on a une garantie du fabricant, ils sont sur une liste verte.
Est-ce que cette défiance marche dans d'autres pays, aux États-Unis ou ailleurs?
Aux États-Unis, je dirais, c'est le contre-exemple. Il n'y a aucun étiquetage, même des produits dans lesquels on a introduit directement des OGM. Donc les Américains n'ont aucune idée qu'ils consomment des OGM, ils n'ont aucun moyen de l'éviter, à part à consommer bio.
En réalité, ils votent tous pour Bush.
Voilà, enfin, je veux dire, je ne sais pas si c'est une conséquence ou l'inverse, mais on a un problème aux États-Unis. Mais dans l'ensemble des pays européens, on a le même genre de problématique qu'en France. Les consommateurs ne veulent pas d'OGM. En Angleterre, on a une très forte campagne contre le lait OGM. En Allemagne aussi, le plus grand fabricant de lait allemand est en ce moment attaqué par Greenpeace parce qu'il ne veut pas garantir l'absence d'OGM dans l'alimentation des vaches. En Autriche, les plus grands fabricants de lait sont en train de se retirer des OGM. Et donc, cette dynamique, on l'initie dans tous les pays d'Europe. Aux États-Unis, c'est impossible. Au Brésil ou dans d'autres pays, en Asie, on a le même genre de démarche, mais qui est à un état plus embryonnaire que celui qu'on a en France.
Salut, c'est Daniel Mermet. Là-bas, si j'y suis. Flight number 2. Arriving from New York. Moi, Pierre Selle, né le 16 août 1923 à Haguenau, arrêté, torturé, violé par les nazis à Mulhouse en mai 1941, interné au camp de concentration allemand de Forbruck, déporté, non reconnu à ce jour. Moi, Pierre Selle, arrêté, torturé, violé par les nazis à Mulhouse en mai 1941, déporté au camp de concentration allemand de Forbruck pour homosexualité. Demande officielle de la reconnaissance légale et de droit de la déportation historique des homosexuels et homosexuels par les nazis pendant la dernière guerre. J'ai vécu ce drame dans l'horreur de la souffrance indicible. Le racisme sexuel existe. Je veux au soir de ma vie et jusqu'à mes toutes dernières forces encore persévérer pour notre mémoire et notre réhabilitation. Mon douloureux témoignage personnel de 49 années d'angoisse honteuse. Petit chapeau, petite écharpe, cravate, manteau, retraité, propret, province, courtois. La nuit, il ne dort pas dans son appartement. Tout un bordel tourmenté de papiers empilés, dossiers jetés, journaux découpés ou froissés. Sur la cuisinière, il regarde une bougie. Une bougie allumée. La bougie, c'est Jo, son ami martyr, son amour torturé. Cet homme porte plus d'histoire qu'un homme peut emporter. Il est sans doute le seul rescapé des déportés homosexuels de la dernière guerre. Et depuis des années, à 70 ans, il se bat désespéré pour le droit, le simple droit, le plus simple des droits, la plus élémentaire des dignités.
J'ai tellement étouffé cette chose pendant 40 ans, est-ce que vous vous imaginez ? Avec un mouchoir, j'ai vécu sur la bouche, ne rien dire à personne. Il n'y avait que le moment qui est arrivé à mon retour de Russie à savoir ce qui s'est passé. C'est à elle que je l'ai dit. Et après, on me reproche, ma femme me reproche que je n'ai jamais rien dit. Mais on ne peut parler qu'avec sa mère de ces choses-là. On ne peut pas parler avec une épouse, avec une femme. Je ne peux pas, moi je ne pouvais pas. Je me serais diminué moi-même. Or, dans la vie, je n'ai toujours eu qu'un sentiment de me grandir, que ce soit dans le travail, que ce soit l'exemple que je donnais à mes enfants. Je n'ai touché à un jeune. Mon amour homosexuel, c'est un amour réservé à une image. C'est un amour réservé à quelqu'un qui peut partager avec moi. Hein. Et je suis donc sorti de ce silence progressivement, c'est-à-dire d'abord maman, ensuite le silence, le mariage, 28 ans de vie commune, des enfants. Et alors, progressivement, je me suis dit, mais il faut que tu parles. Il faut que tu peux pas garder ça.
Pierre Peter Sell, histoire d'un triangle rose. politique. Vert, les passagers illégaux ou les délits de frontières. Jaune, juifs, polonais ou russes. Écossais, droits communs ou asociaux. Bleu, les homosexuels ou les religieux. Voilà les sigles, les signes qui marquaient ceux dont les nazis avaient décidé la disparition. De tout cela, ceux qui portèrent d'abord le sigle bleu, puis le triangle rose, on en parle peu, on en parle pas souvent, très peu souvent. Oubliés de l'histoire ou méprisés à les savoir. Aujourd'hui, le témoignage de Pierre Selle. Pierre Selle a 70 ans, il vient de vous le dire, et il veut absolument témoigner. Ne croyez pas que c'est quelqu'un qu'on est allé chercher comme ça dans un coin et qu'on a supplié de bien vouloir parler dans le micro. C'est quelqu'un qui veut absolument témoigner et raconter son histoire. Ça se passe à Toulouse, un beau jour tranquille de Toulouse. Si on voit cet homme dans la rue, personne ne peut se douter de qui il est, ni imaginer un seul instant qu'il porte, qu'il est le dépositaire d'une histoire aussi poignante.
Bonjour monsieur.
Donnez-vous la peine de rentrer, je suis heureux de vous accueillir.
Bonjour monsieur, Daniel Mermet.
J'étais à la fenêtre pour vous guetter et puis j'allais à votre rencontre et puis je vous ai manqué.
Voilà, ben on arrive. On arrive, on avance par là.
Oui, oui. Écoutez, je ne vous invite pas à ranger. Hein, vous prenez comme c'est. C'est mon cadre de vie. Donnez-vous la peine, excusez-moi, je suis désolé. Je vais chercher une autre chaise.
Pourquoi cette bougie, oui, c'est la cuisinière.
Cette bougie, depuis des années, j'ai une bougie ici. Elle brûle pour les morts que j'ai connus en mai 41. C'est idiot, c'est terrible.
Ah, sans souvenir des...
C'est pas un souvenir, c'est une présence. Dès que quelqu'un arrive, j'éteins. Ah. Là, vous êtes là, je vais éteindre. Et vous allez partir tout à l'heure, je vais randonner. Ah. C'est une présence que je ne suis pas seul avec ça. Un jour, en sortant de l'école, il y avait un lieu de rencontre. C'était des WC publics, les toilettes qui étaient souterraines, près d'un square, près de, le square Steinbach à Mulhouse. Et là, on était plusieurs garçons à descendre et puis à se rencontrer. Voilà. Et moi, je suivais le mouvement. Je pense que je n'ai jamais été un meneur, mais enfin, ça assouvissait, si vous voulez, mon besoin de curiosité. Et peut-être ma recherche d'amour. Hein, c'est le mot, il faut le dire. Et il est arrivé un événement dans ce sous-sol. Un de mes voisins m'a arraché ma montre. Montre-bracelet. À laquelle je tenais beaucoup. Je venais de faire ma communion solennelle. En Alsace, c'est un grand événement. Et c'était un cadeau d'une sœur à ma mère, qui était donc ma marraine et qui habitait à Paris. Alors pour moi, en plus, cette marraine, c'était Paris. La montre, c'était Paris. Vous voyez, c'est terrible de vous exprimer ça. Il me l'a arraché, j'ai hurlé, au voleur, au secours. Les autres, tout le monde est parti, ils sont évaporés dans la nature. Et je me suis retrouvé à grimper les escaliers, mais le voleur était disparu. C'était pas un garçon de l'école. Hein. Et alors j'étais là dans ma misère. Et puis, il fallait vraiment être innocent. Je suis allé au commissariat de police. Et je suis arrivé là, tout tremblotant. Et je dis au policier de service, là, d'accueil, voilà, on vient de me voler ma montre. On va faire une déposition. Et puis, un inspecteur a pris, que je connaissais, de vue, et puis il me connaissait, le fils de la pâtisserie, une des plus grandes pâtisseries, confiseries de Mulhouse. Mais qu'est-ce que tu as fait dans les WC? Qu'il me dit. Qu'est-ce que tu as fait si papa savait ça? textile. Bon, ça m'est resté. Je suppose que j'ai dû rougir derrière les oreilles, terrible. Et puis là, j'ai dit, bon, voilà, c'est un lieu de rencontre. Ah, il dit, bon, tu nous promets, tu vas bien travailler, tu ne descends plus, tu nous promets de ne plus aller là-dedans, c'est dangereux, c'est sale, etc. Et puis, on ne dira rien à papa ni à maman. Bon, merci beaucoup, je suis sorti, libre. Et ça, c'était donc dans l'année qui a précédé l'arrivée des nazis à Mulhouse. Hein. Alors, j'ai continué mon travail, j'ai eu le certificat d'études, j'ai essayé de ne plus penser à ça. Oui, si vous voulez, j'ai enterré ma nature. Hein. Aujourd'hui, je m'en rends compte. Les Allemands sont venus en juin 40. Je me souviens parce que nous sommes allés sur le trottoir, bien sûr, on était curieux quand même. Aux fenêtres, il y avait des matelas. Mes parents avaient mis des matelas devant les fenêtres, à tous les étages. Je sais que papa pleurait. Nous avions un voisin qui s'appelait Müller, qui lui était content. Il avait l'air content. Moi, j'étais triste. Ma mère était triste. Et nous étions surtout foudroyés par la force du matériel qui passait.
Pierre Selle, il y a 15 ans maintenant, 1993, il nous racontait ce que fut le massacre des homosexuels pendant la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, on sait qu'il n'a jamais été possible de savoir le nombre exact d'homosexuels disparus dans les camps de concentration. Mais dès 1937, le journal de la SS estimait le nombre d'homosexuels allemands à 2 millions d'individus et exigeait leur liquidation. Alors évidemment, lorsque la France s'est occupée, les Français homosexuels sont concernés directement par cette liquidation, Pierre Selle.
J'ai arrêté d'aller à l'école, j'avais mon certificat, et qu'il fallait chercher du travail. Alors, il n'y avait que l'embarras du choix. Mes parents connaissaient le gérant des chaussures André, ça je le vois très bien, qui est rue du Sauvage. Ils connaissaient également le magasin de textile qui était à côté, qui était, lui, un magasin sous gestion allemande. C'était un magasin juif, mais géré, donc, sous l'occupation, par des Allemands qu'on faisait venir de l'Allemagne. Et le magasin, au lieu de s'appeler Schwab, à ce moment-là, s'appelait NEK. Le soir, il y avait le couvre-feu, il mettait partout du bleu aux fenêtres, à cause des bombardements, à cause des passages des avions. La nuit était propice aux rencontres. Dans le cadre, là je suis un peu gêné d'en parler, parce que je n'ai pas fait partie d'un réseau de résistance, c'était plutôt un réseau d'amis, de camarades homosexuels. Nous distribuions des tracts, par exemple, anti-nazis. On arrachait des affiches, on en collait d'autres. Il y avait des meneurs dans le groupe qui nous donnaient un pli sans rien dire et disaient va le porter à monsieur un tel ou à madame un tel. C'était pour nous en même temps le prix de la liberté. Je suppose que notre amitié, que nos besoins d'amitié favorisaient notre regroupement. Un soir, en rentrant du magasin, j'allais embrasser maman. Et puis elle me dit, qu'est-ce que tu as fait? Tu es convoqué à la Gestapo demain. Là, comme ça. Au mois de mai 41. Ah. J'étais loin de penser, je reviens au commissariat de police français, j'étais loin de penser à l'homosexualité. Alors vraiment loin. Hein.
La destruction de l'État commence au moment où intervient un principe érotique. Et je le dis avec le plus grand sérieux, l'attrait sexuel de l'homme pour l'homme nuit à la bonne marche des affaires. Himmler.
Je revois l'endroit, je revois tout. Il paraît que ça a été transformé depuis. Et puis, Bon, les cris ont commencé tout de suite, les cris.
Quels cris? Pourquoi les cris?
Des hurlements, les Allemands ne peuvent pas parler, ils hurlent. C'est peut-être pour ça que j'ai tendance à hurler quand je suis en colère, parce qu'il y a peut-être, en tant qu'Alsacien, il y a peut-être aussi un peu de germanisme là-dedans. Vous voyez, il y a les deux cultures qui se sont cognées là-bas. Hurler, des hurlements, mais aussi des cris, et là, c'était les victimes. Là, c'était les personnes qui ont été arrêtées en même temps que moi, qui ont été convoquées en même temps que moi, sur lesquelles on travaillait déjà, travaillait entre guillemets. Alors,
ça veut dire qu'on les torturait.
Absolument, il n'y a pas d'autre terme. Alors, en traversant, on m'a donc installé également à une table. C'est allé très vite. On m'a montré un papier, qui était donc ce fameux rapport. Là, on revient donc à la catastrophe qui est arrivée avant l'arrivée des nazis. Et si je reconnaissais, qu'est-ce que vous voulez, il y avait ma signature en bas, c'était marqué en français, etc. Lieu de rencontre, Schwarzsteinbach. Et je n'aime pas parler des coups que j'ai reçus, que nous recevions. De toute façon, j'ai reconnu aussitôt les autres garçons. Par la suite, nous avons su que nous étions 12 à être convoqués cet après-midi-là. 12 homosexuels. 12. Et alors, les tortures, c'était les uns étaient à genoux sur une règle, les tortures simples et les tortures compliquées. Ensuite, les gifles, toujours avec la lumière, je revois les phares, là, dans les yeux. Et alors, ils ont commencé, par un, ils ont fait descendre le pantalon pour ça, pour voir s'ils n'avaient rien caché. Soi-disant, on peut cacher des papiers ou des affaires dans l'anus, il faut dire les choses comme elles sont. Et là, ça a commencé, ils sont devenus comme fous. Comme déchaînés, et au point que dans une salle, ils ont battu les uns avec les autres. Le plus fort des nazis prenait un garçon et tapait l'autre avec. Vous voyez. C'était vraiment la haine de l'homosexuel. La haine sur nous parce qu'on était homosexuel. Ça, j'en ai déduit tout de suite.
Mais est-ce qu'ils savaient que vous aviez distribué des tracts et des choses comme ça?
Non, justement, ça n'a jamais ressorti. Ça n'est jamais ressorti. Moi, j'aurais préféré que ce soit ressorti, qu'on nous dise, voilà, vous avez enlevé des affiches, vous avez distribué des affiches, etc. J'aurais peut-être, au moment de la libération, en 45, quand je suis revenu, j'aurais peut-être été fier et j'aurais parlé de ma résistance, que j'ai fait moi aussi de la résistance. Non, on nous a diminué plus que bas, sous terre, n'est-ce pas, avec l'homosexualité.
C'est au cours de cette séance de torture que vous avez été violé par les nazis.
Oui, jusqu'à présent, je n'ai jamais insisté là-dessus, parce que je me suis toujours réservé le droit de protéger ce souvenir. Je ne commence à parler que depuis un an, deux ans de ce viol, parce que c'est trop dur, c'est trop... pour moi, c'est lié aussi toujours à cette notion de honte, d'abaissement, n'est-ce pas? Maintenant, si je revois la scène, et si je devrais la décrire en toute réalité, le viol en lui-même n'était peut-être pas la chose la plus terrible. C'était le sang qu'il y avait partout. N'est-ce pas, sur les papiers, sur les tables, il y avait du sang partout, comme dans une boucherie. Et toujours les cris, les hurlements des nazis, et nos propres cris à nous aussi, des cris de douleur, de souffrance, n'est-ce pas? Parce que vous avez des gens qui savent souffrir dans le silence, qui mettent la main dans la bouche pour se taire, pour accepter la souffrance. Et il y en a d'autres, moi j'ai hurlé comme quelqu'un qu'on égorge. Hein. Mais plus, le malheur, c'est que plus je hurlais, plus je les excitais, plus ils étaient violents, plus ils sortaient leur violence, voyez. Et vous ne pourriez rien faire. Ils étaient armés, premièrement, ils étaient bottés, et nous, on était à moitié dévêtus, avec du sang partout. Et ça a duré quand même longtemps, cette séance l'après-midi. Dans les différentes salles, ça bougeait, ça bousculait d'une salle, on venait vous tirer dans une autre. Et il y avait toujours, ça, je l'ai peut-être passé exprès sous silence, j'avais dans le magasin où je travaillais un petit ami qui était vraiment, tous les deux, nous étions très heureux de nous aimer, Joe et moi. C'est important que je le dise parce qu'il a été convoqué en même temps que moi, Joe. Et là-dessus, donc, on nous a montré un autre papier où il y avait le nom que nous avons tout de suite reconnu d'un prêtre, un aumônier du lycée de Mulhouse, un prêtre jésuite, il est maintenant décédé. La Gestapo nous a demandé, vous l'avez connu, comment l'avez-vous connu, etc. Et là, nous avons été très forts, nous avons réussi à ne rien dire. Joe et moi, jusqu'au bout, nous avons protégé ce prêtre. Il n'a pas été arrêté. Il aurait suffi que qu'on cède, nous deux, à notre souffrance, qu'on signe, par exemple, ou qu'on fasse une allusion quelconque, et cet homme aurait été arrêté. Le soir même, mon père et mon frère, qui devaient donc se marier dans la quinzaine, se sont présentés à la Gestapo, et ont demandé, après moi, ils ont demandé qu'est-ce que devenait Peter. Moi, je suis en Alsacien, ça veut dire Peter, c'est... Ah, votre fils, c'est un Schweinehund. C'est un Schwein, c'est cochon, et Hund, c'est chien. N'est-ce pas? Et Arschficker, ça veut dire enculé. Voilà, Arsch, c'est cul, c'est l'anus. Et Ficker, c'est le baiser, quoi. Et alors là, mon père est presque tombé, il paraît qu'il est tombé évanoui, enfin, presque évanoui, ma maman est tombée évanouie quand elle l'a appris. C'est comme ça que mes parents ont appris que j'étais homosexuel. Le soir même, donc, nous nous sommes retrouvés dans des cellules, à la prison, aux prisons de Mulhouse. Et là, j'ai découvert la cruauté de l'être humain. J'étais donc le plus menu, le plus maigre, le plus jeune. La cellule était encombrée d'une montagne de d'hommes, d'êtres humains, les uns plus mal lotis que les autres. Et moi, on m'a mis, le mur suintait, ça, je le garderai toujours dans ma mémoire, le mur suintait, nous étions donc tous des Français, hein, tous des victimes des nazis. Et moi, on m'a mis dans l'eau. Moi, le plus jeune. Aucun ne voulait se mettre de côté du mur, la flaque d'eau, et j'ai resté là la nuit entière, croupi dans cette eau. Ça m'a fait réfléchir sur moi qui était un être d'amour, qui le suis encore, qui crie, qui je ne voudrais que hurler l'amour, d'avoir fait ce jour-là, en une seule journée, le contact avec l'horreur, avec le viol, avec la souffrance, et en plus, l'attitude des compatriotes, n'est-ce pas, qui étaient peut-être il y a quelques jours avant avec moi enfin chercher le plaisir peut-être, vous voyez, tout ça je l'ai découvert en une seule après-midi. Et nous avons été transférés au camp de Voorbrug, qui est dans le Bas-Rhin. C'était un camp qui en 41 commençait à se remplir. Il y avait des communistes, il y avait des tziganes, il y avait des juifs, il y avait des homosexuels comme nous autres. Il y avait beaucoup de femmes quand même. Il y avait des prostituées, des droits communs aussi. Ça c'était terrible, le contact dans ce camp. Moi, un souvenir qui me reste, on passait à la tondeuse. Normalement, on était tous tondus et ensuite à la douche, l'échange des vêtements. Moi, quand même, pendant deux ou trois jours, on m'a fait circuler avec la croix gammée sur la tête. J'avais des très beaux cheveux, j'étais un zazou, comme on disait à l'époque. Les cheveux en arrière collés, ça se voit plus maintenant, j'ai plus rien. Mais... Vous savez, les nazis, ils étaient vraiment très forts. Ils inventaient n'importe quoi pour vous diminuer. Alors cette croix gammée dans, tondue sur ma tête, dans mes cheveux, n'est-ce pas, j'étais la risée des autres. Et en plus, l'insigne qui montrait quand même que j'étais un homosexuel, nous n'avions pas le triangle rose, nous avions un insigne bleu à l'époque. Donc je n'avais pas ni l'étoile, ni l'insigne rouge des politiques, ni l'insigne brun des gitans. On avait un insigne à nous, donc on nous reconnaissait. Alors, il y avait quand même, de la part des compatriotes, de la part des autres, une risée, hein. C'est pour ça, longtemps après, même dans l'armée allemande, je me disais, ça doit se voir sur mon visage. Longtemps dans la rue aussi, il m'est resté une habitude, une des souffrances particulières qu'on nous réservait là-bas dans le camp, c'était, il fallait toujours courir et ramasser des petits bouts de papier. Et les SS s'amusaient à en jeter, dès que vous en ramassiez un, ils en remettaient d'autres. Et alors on passait des heures entières à ramasser des bouts de papier. C'est peut-être pour ça que maintenant je suis encombré de papier. Rien que pour dire je ne veux plus les ramasser. Je suis libre, moi, maintenant, d'avoir mes papiers. Vous voyez, c'est terrible. Ça, je voudrais que vous exprimiez tout ça. Enfin, en somme, ma façon de vivre maintenant est une, ce n'est plus une interrogation, c'est une révolte constante contre mon passé, de ce que j'ai vécu, de ce que, vous voyez. Alors, pour en revenir au camp, c'est allé très vite dans les premiers jours, en juin 41, donc un an après l'arrivée des nazis, hein, un an après l'arrivée des nazis. Un matin, je ne vois pas Joe, et nous avions tous les matins des appels, ça s'appelait, il fallait aller sur la grande place du camp, où il y avait des potences d'ailleurs aussi, pour les pendaisons. Ça, on ne le dit pas assez, tout ça nous l'avons vécu, hein, ils laissaient balader les corps des fois pendant des journées entières, les corbeaux qui tournaient autour, on était toujours avec cette vision, hein. Et je ne vois pas Joe, et je le vois arriver, encadré de deux gendarmes, enfin de deux Gestapo, et ils ont lu, donc toujours en allemand, une sentence, une condamnation à mort, et là, ça je vous parle alors de mon ami, hein, mon ami, c'était pas mon amant, parce que c'était très pur, c'était magnifique ce que nous avons vécu tous les deux ensemble. Il était là, ils l'ont fait déshabiller, entièrement à poil. Je pèse bien mes mots. Ils lui ont mis un seau en fer blanc sur la tête. Donc on ne voyait que le corps. Et ils ont lâché les chiens du camp sur lui. Et ça, c'est historique, cette déclaration. Je veux qu'on le sache, qu'on le dise encore maintenant, qu'on en répète dans les chaumières, que partout je veux qu'on le sache, qu'ils ont fait ça, les Allemands. Les Allemands, c'était des nazis, mais c'était des Allemands. Joe, quand il a été dévoré par les chiens, la musique était diffusée pendant ce temps.
Quelle musique vous vous
souvenez? Allemande, de la grande musique allemande. Oui. En partie, ça couvrait les cris, mais les cris déjà étaient couverts par le seau sur la tête, n'est-ce pas, ce seau métallique, mais qui par moment amplifiait le bruit. Ça faisait une sonorisation, si vous voulez. Oui, c'est atroce ce que je vous dis là. Hein? Vous comprenez maintenant pourquoi il y a une bougie qui brûle chez moi. Hein?
C'est la mémoire de Jo.
C'est lui. Et plus, maintenant j'ai 70 ans, plus je vieillis, plus j'ai besoin de penser et de sentir, je me dis, pourvu que sa dernière pensée était pour moi. Vous voyez? À ce point. Puisque je peux pas m'empêcher de penser à lui. Je peux pas, c'est pas possible.
Moi, Pierre Selle, déporté homosexuel, le témoignage de Pierre Selle a fait l'objet d'un livre il y a déjà quelques années, édité chez Kalman Levy. J'espère qu'on peut Le retrouver a signalé ce soir sur Arte à 22h35, 7 en hiver que les jours rallongent, le documentaire de François Choyer autour du témoignage de Joseph Bialo, déporté à Auschwitz. José Bové, la Confédération paysanne des faucheurs volontaires tout, et Greenpeace, tout ça ce sera demain matin. Pour ceux qui seront à 9h sur le port de Lorient, le navire arrivera avec les anti-OGM aussi, vous êtes au courant maintenant. L'équipe de la base, j'y suis, la technique d'abord, c'est Michel Thomas et Antoine Viossa. Et l'équipe de la base, j'y suis, c'est Antoine Chaos, c'est Yann Chouquet, c'est Christophe Imbert et c'est Pascal Le Pascariello. Et le numéro du répondeur, c'est le 01 56 40 37 37. On se retrouve demain à 17h pour la basse, j'y suis. Dans 30 secondes de pub, vous retrouvez Charivari avec Frédéric Bonneau. À demain, 17h. Salut!